Paru en 1919, le livre aborde des chalutiers et dragueurs de mines de l'écrivain Marc Elder et du peintre-graveur René Pinard vient d'être édité aux éditions CVRH, Centre Vendéen de Recherche Historique. Jean-François-Henri, bonjour.
Bonjour.
Tu es historien, il est. Quel a été ton rôle dans cette réédition du livre « Abord des chalutiers et dragueurs de mines » paru il y a déjà 100 ans ?
Alors cet ouvrage, je l'ai découvert quand j'ai préparé mon ouvrage sur l'île-Dieu pendant la Première Guerre mondiale. Cet ouvrage, en fait, n'est pas de Marc Elder, mais de René Pinard, le graveur, rehaussé des textes de Marc Elder. Et cet ouvrage a été tiré il y a 100 ans, en petite quantité, puisqu'il n'y avait que 400 exemplaires, et un certain nombre, bien sûr, a disparu.
Dans ce livre, on suit Marc Elder et René Pinard sur le Cardonis, un petit navire de pêche transformé en démineur. C'est de leur plein gré ou étaient-ils obligés de participer à cette mission ?
Alors, on est pendant la Première Guerre mondiale. Dans un premier temps, la guerre se situe essentiellement donc sur le front de l'Est et du Nord de la France. Et à partir de 1917, les Allemands décident de faire une guerre sous-marine à outrance. Donc les eaux de l'île-Dieu et de la façade française occidentale devient une zone de guerre intensive. Donc les sous-marins allemands, et là on parle bien de la Première Guerre mondiale, hein, donc on est en 1917, les sous-marins allemands vont sillonner toutes nos côtes pour empêcher le ravitaillement de nos ports français, et notamment du port de Saint-Nazaire. Donc le Cardonis, c'est un bateau de pêche qui dépend de l'Orient, et comme beaucoup d'autres bateaux de pêche, comme le Kyriado et d'autres, sont réquisitionnés. Et donc, il y a un équipage qui est mis à bord, qui est un équipage d'appelés, c'est-à-dire de soldats qui font la guerre. Hein. Ce sont des marins, mais qui, là, ont une mission particulière qui est de chaluter, non pas les poissons, mais chaluter des drôles de poissons qui sont les torpilles. Et les mines, surtout.
Et les mines, surtout.
Oui, surtout les mines.
Beaucoup de mines ont été récupérées par ces bateaux ?
Oui, beaucoup de mines. La preuve, c'est que les bateaux, notamment qui viennent des colonies françaises ou qui viennent de l'Amérique, arrivent sur Saint-Nazaire et il faut éviter qu'ils puissent heurter une mine, car s'ils heurtent une mine, eh bien, automatiquement, ils coulent. Hein? Donc régulièrement, ils vont, avec un système de dragage, ressortir donc ces mines du fond de l'eau et les faire exploser.
Saint-Nazaire, c'était une plaque tournante de l'économie, c'est pour ça que c'était vraiment ciblé sur Saint-Nazaire ?
Alors, c'est ciblé sur Saint-Nazaire, mais le même travail se fait devant tous les autres grands ports. Hein. Et la même chose se fait avec l'Orient, la même chose se fait à Brest, mais surtout cette zone-là. Hein. Donc, on sait qu'une grande partie des troupes américaines sont arrivées par Saint-Nazaire.
Les eaux au large de l'île-Dieu étaient-elles particulièrement minées ?
Oui, alors il faut savoir que l'île-Dieu en soi n'est absolument pas une cible. Les Allemands n'ont pas intérêt à prendre l'île-Dieu. Par contre, le long des côtes, il y a deux façons d'appréhender la circulation. D'une part, les navires vont en convoi depuis notamment les ports de l'Orient vers le port de la Palisse. Et quand ils vont en convoi, ils passent au large de l'île-Dieu. Donc ce sont des cibles relativement faciles pour les sous-marins.
Ce que tu nous dis, cette route était vraiment fréquentée.
Très fréquentée. Et puis, il y a tous les bateaux qui viennent du Nouveau Monde et qui très souvent, à ce moment-là, on n'a pas les systèmes d'orientation que l'on a aujourd'hui. Donc, ils visent sur l'île-Dieu et après, en fonction de leur point de repère, ils vont sur les différents ports de la côte atlantique. Donc, l'île-Dieu devient une zone très fréquentée et donc une zone reconnue par les sous-marins pour pouvoir couler des bateaux.
Comment la France luttait contre ces sous-marins allemands, les U-boats ?
Alors la France au début est un peu surprise par l'intensité de la guerre. Donc on va mettre en place des patrouilles, alors patrouilles de Gascogne notamment, qui vont régulièrement donc essayer ben là on est vraiment au niveau de l'essai, au moins de sauver les bateaux qui sont coulés. Il faut savoir qu'autour de l'île, on a à peu près 27 torpillages ou bateaux qui explosent liés au contact avec une torpille. Et à partir de 1918, la réaction va être une réaction d'abord de la présence américaine sur nos côtes, avec la base, là on l'oublie, c'est que Fromentine était une base, avec La Fosse et Fromentine, une base d'hydravions américains. Donc, et Pornichet. Et ils vont installer sur l'île Dieu une base aérienne, donc au Kerbossi. Donc les avions commencent à survoler l'île, comme on disait à l'époque, les aéronefs ou les aéroplanes. Donc on a une base américaine à Fromentine, mais on a à Pornichet une base française qui vient s'installer et on a autour du Kerbossi donc le premier terrain d'aviation que notamment les internés de la citadelle ont nivelé pour permettre aux avions d'atterrir. Et la présence de ces avions fait qu'ils survolent donc les eaux et donc peuvent détecter plus facilement des sous-marins qui ne peuvent pas être en grande profondeur.
Pour en venir à la question initiale, Marc Helder et René Pinard étaient-ils obligés de participer à ces missions ?
Alors, non. Pinard est un graveur, c'est un peintre. Et il y a eu, le gouvernement français a souhaité que les artistes puissent témoigner de la guerre. Donc, il a demandé à des artistes d'aller sur les lieux de combat pour témoigner. Et donc, Pinard, là, est officiellement envoyé en mission pour témoigner. Ce qui est plus original, c'est qu'il se fait accompagner d'un artiste nantais qui est Marc Helder. Ils étaient tous les deux au lycée de Nantes, hein, qui est aujourd'hui le lycée Clemenceau. Et Helder embarque, lui, pour écrire ce qui s'y passe.
Écrire la vie de ces marins.
Voilà, une vie au quotidien. Et à ce moment-là, Marc Helder est en pleine gloire, puisqu'il vient de remporter le prix Goncourt juste avant la guerre. Et excusez du peu, dans les écrivains en concurrence pour ce prix, il y avait Marcel Proust et à la recherche du temps perdu, et il y avait Alain Fournier pour le Grand Môle. Et c'est Marc Helder avec Le Peuple de la Mer qui a remporté le prix Goncourt. Donc à l'époque, juste après la guerre, Marc Helder est en pleine gloire. Et c'est à ce moment-là qu'il écrit ce livre qui n'aura pas grande audience, hein, parce qu'à ce moment-là, c'est le triomphe des grands ouvrages sur la guerre 14-18, notamment avec le feu d'Henri Barbusse, ceux de 14 de Genevois, etc.
Ce que tu nous dis, le livre à bord des chalutiers dragueurs de mines n'a pas eu le succès escompté.
Non, il n'a pas eu le succès escompté, alors qu'il est d'abord original parce que, à ma connaissance, il n'y a pas d'artiste qui se soit associé pour témoigner d'une époque. Deuxièmement, il est d'une très grande qualité à la fois iconographique, car les dessins de Marc Helder sont absolument remarquables, d'intensité, d'émotion, dans les visages, dans les attitudes. Et puis le texte de Marc Helder est d'une puissance, d'une évocation poétique magnifique.
Ça raconte vraiment, on le disait à l'instant, la vie de ces gens et de ceux qui ressentaient également.
Voilà, on peut dire qu'on est vraiment à bord du bateau. Ce sont des textes très courts. Il y a six nouvelles qui vont scander un peu cette vie quotidienne.
Qu'est-ce qui t'a le plus marqué, les écrits ou les tableaux ?
Si vous voulez, au premier abord, c'est évidemment l'image. Parce qu'on est frappé par le regard de ces marins, par leurs attitudes. Et quand on lit le texte, eh bien, on a vraiment l'impression que les images sont encore plus animées par ces dialogues, par cette vie à la fois anodine, parce que c'est une vie toute simple. Hein. On a par exemple le cuisinier qui passe son temps à courir après ses casseroles, des choses comme ça. Et à côté de ça, eh bien, ce sont des gens qui... Au quotidien, eh bien, tutoie la mort, puisque au moindre choc, eh bien, le bateau va exploser.
Les tableaux représentent les navires, les hommes partant de gros temps ou au mouillage.
Partant de gros temps, au mouillage.
Sur la passerelle.
Voilà, sur la passerelle. On a aussi dans la chambre avec l'équipage. On a vraiment l'impression d'être à bord. Alors, mon travail dans cette affaire-là, ça a été d'une part de remettre le contexte de l'édition du livre, pour essayer de comprendre pourquoi ils l'ont écrit. Et deuxième point, ça a été d'annoter le texte en vérifiant, ça c'est mon travail d'historien, de vérifier que tout ce qui est écrit correspond exactement à la chose. C'est-à-dire qu'on a là, c'est très impressionnant, un témoignage, presque un journal de guerre, quoi, en quelque sorte.
C'est un journal de guerre.
Et lorsque les marins discutent entre eux, par exemple, de la vie quotidienne, des naufrages et autres, j'ai vérifié et tout correspond exactement. Donc ça montre bien que Marc Helder était bien avec eux, il a bien embarqué, et ce qu'il dit, c'est à la limite presque du magnétophone, quoi. Je pense que c'est un témoignage original, parce que la plupart ont donc témoigné des tranchées. Comme il n'y a pas eu de grande bataille navale, puisque l'essentiel des combats était sur la Méditerranée, donc en France... finalement, il n'y avait que ce type de guerre qui est une guerre tout à fait particulière, puisque c'est une guerre nouvelle, une guerre sous-marine à laquelle la France n'était pas du tout préparée.
Oui, ces mines, on rappelle qu'on ne les voyait pas.
On ne les voyait pas, et les mines étaient dangereuses, même même à terre, parce que j'ai deux exemples pour Lisieux. Une fois, une mine va exploser à la Meule et va détruire en partie la chapelle qui va avoir sa toiture démolie. Et il y a une deuxième mine qui va exploser devant, aujourd'hui, on dirait, à l'endroit où se trouve le parking de l'hélicoptère. Et là, c'est la toiture de l'usine qui va sauter, quoi. Hein, alors que c'était des mines qui viennent heurter les rochers.
Il y avait beaucoup de petits bateaux, navires de pêche transformés en démineurs ?
Non, il n'y en avait pas beaucoup. Mais il suffisait qu'ils soient, donc c'est quand même des chalutiers qui sont des chalutiers à vapeur, à une époque où la marine à voile est encore essentielle. Hein. Et puis, il y avait un bateau qui était en quelque sorte le bateau amiral, qui était le nomadique.
Le nomadique est très important.
Alors le nomadique a une histoire très particulière parce que il était surnommé le petit frère du Titanic. Il était ce qu'on appelle un convoyeur, c'est-à-dire que quand les grands paquebots arrivaient à Cherbourg, ils n'avaient pas la possibilité d'aller à quai, ils étaient trop grands. Donc le bateau, le nomadique, comme le trafic, allait depuis les quais jusqu'au navire qui était en rade pour convoyer non seulement les passagers, mais aussi les marchandises et leurs bagages. Et donc, après la guerre, à ce moment-là, le nomadique a été réquisitionné et envoyé à Saint-Nazaire pour lui aussi draguer les mines.
Le nomadique, on le retrouve en photo dans ce livre.
Alors, non seulement on le retrouve en photo, mais le nomadique vient à l'île-Dieu, puisque après le naufrage du Sequana, la mairie de l'île-Dieu s'est trouvée confrontée avec tous les rescapés du naufrage et ils ne savaient pas quoi faire car il fallait les habiller, il fallait les nourrir, etc. Donc le nomadique est venu à l'île-Dieu, il a accosté quai d'Anglaire qui est aujourd'hui quai du Canada et il a rembarqué donc tous les rescapés du naufrage du Sequana. Puis le nomadique a eu une vie tout à fait particulière puisque après la Première Guerre mondiale, il a fait la Deuxième Guerre mondiale. Il a été transformé ensuite en restaurant au pied de la Tour Eiffel. Et aujourd'hui, on le trouve encore, donc, puisqu'il a retrouvé son dock d'origine, puisqu'il est à Belfast, et on le visite avec le musée du Titanic.
Dans cette édition de ce livre, tous les écrits de Marc Elder et les peintures de René Pinard sont présentés.
Alors, c'est le texte absolument intégral.
C'est important de le préciser.
Oui, il est intégral et toutes les images sont donc représentées, voire même une de plus. Alors, dans le travail que j'ai fait aussi, j'ai eu l'occasion de rencontrer un autre graveur qui s'appelle Laboureur. Et Laboureur a gravé, à la même époque, le bistrot qui est à l'abri des tempêtes, dans lequel vont se retrouver les marins donc du Caire de Nice. Et Marc Elder parle de ce bistrot qui est toujours donc à Saint-Nazaire et dont Laboureur a fait une superbe gravure.
Avec qui as-tu travaillé pour cette édition ?
Eh bien, j'ai travaillé essentiellement donc avec le musée d'art de Nantes où j'ai trouvé un exemplaire et aussi la médiathèque de Nantes où j'ai trouvé un exemplaire qui était annoté par Marc Elder et j'ai trouvé aussi les carnets de Pinard. Et donc là, Pinard explique comment il a pu écrire, comment il a pu aussi vendre ses différentes œuvres, parce que les œuvres originales ont été vendues.
Ce livre, à bord des chalutiers dragueurs de mines, la réédition est disponible à la Maison de la Presse de Lisieux ?
Dans toutes les bonnes maisons d'édition, évidemment, et à la Maison de la Presse, évidemment.
Ça a été édité par le Centre Vendéen de Recherche Historique Jean-François Henri. Merci beaucoup.
Bonne soirée, au revoir.
À très bientôt.
Merci.